Le journal de Cyprien Lovi.
Bonsoir, Mathilde Crevoisier-Crelier, sénatrice pour le canton du Jura, la socialiste de Porrentruy, a accepté cet après-midi de succéder à Elisabeth Baumschneider au Conseil des États. Sa première interview dans un instant. Une preuve de plus que l'élection de mercredi de l'Afro-Montagnarde au Conseil fédéral chamboule la vie de plusieurs personnes dans la région. Alors comment sa famille vit-elle ces jours historiques? Son mari Pierre-André témoigne avec franchise, tendresse et humour dans ce journal. Pas facile d'attirer du monde au théâtre. Le centre culturel de Porrentruy travaille sur ses tarifs pour tenter de rendre la culture la plus accessible possible. La programmation présentée aujourd'hui se veut aussi plus populaire. Vous n'avez parlé que d'elle aujourd'hui. La neige a fait son retour pour le plaisir des uns, le malheur des autres. Le temps restera froid ce week-end. Samedi gris, dimanche un peu moins. Mathilde Crevoisier-Crelier, nouvelle conseillère aux États jurassiennes. La socialiste de Porrentruy va remplacer Elisabeth Baumschneider à la Chambre des cantons. Annonce faite cet après-midi, elle était la colistière de la nouvelle conseillère fédérale franc-montagnarde lors des élections de 2019. Âgée de 42 ans et mère de 4 enfants, Mathilde Crevoisier-Crelier a accepté d'endosser le rôle de sénatrice après 2 jours de réflexion. Elle nous explique pourquoi.
D'une part, c'est une occasion d'une vie, je dirais, qui ne va pas se représenter 2 fois. Je pense aussi que j'ai été élue aussi par la population. Alors certes, comme vient ensuite, mais c'est vrai qu'on avait fait une très belle campagne, Elisabeth et moi. Tu t'es aussi arrivée en 3e position, si on peut dire, de cette élection. Donc je pense qu'il y avait aussi une volonté finalement des Jurassiennes ou des Jurassiens de me voir prendre cette fonction si cela devait arriver.
Vous êtes aujourd'hui traductrice au département fédéral de l'Intérieur. Vous connaissez donc ce qui se passe sous la coupole fédérale. Vous n'allez pas totalement dans l'inconnu.
Non, alors ça, je pense, c'est un des atouts de mon profil, c'est que je travaille depuis 9 ans maintenant dans l'administration fédérale, au plus près, je dirais, de ce qui se passe au Parlement, puisque dans un secrétariat général de département, c'est un peu la plaque tournante, si je peux dire, entre le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale et l'administration. Donc c'est vrai que j'aurais déjà une certaine familiarité, d'une part avec les procédures, un peu comment ça se passe simplement au sein de l'Assemblée, mais d'autre part aussi avec les dossiers.
Comment est-ce que vous allez vous fondre maintenant dans ce moule, dans cette chambre des cantons, aux côtés des autres sénateurs?
Eh bien, le mieux possible, j'espère. Alors c'est vrai que j'ai un profil peut-être un peu différent de celui de la majorité des parlementaires. Cela dit, j'aurai un groupe parlementaire que j'ai déjà pu rencontrer en partie cette semaine. De toute façon, on a une chambre qui devront aussi fonctionner ensemble. Donc, je ne crains pas trop cette acclimatation.
Vous êtes aujourd'hui présidente du Parti socialiste de Porrentruy. Vous avez siégé 10 ans au conseil de ville et vous venez d'être élue au conseil municipal. Toute cette activité de politique locale, c'est désormais derrière vous où vous allez poursuivre cette activité, notamment au conseil municipal.
Alors, c'est vrai que pour ce qui est de la présidence de la section, c'était quelque chose que j'envisageais de laisser, y compris en devenant conseillère municipale. Maintenant, à propos de cette fonction, justement, ça a été une réflexion. Et puis aussi en concordance avec la section de Porrentruy du Parti Socialiste, j'ai pris la décision de ne pas cumuler les 2 mandats. Je pense que ce serait une charge trop lourde, ou en tout cas qui m'empêcherait vraiment de l'exercer aussi bien et aussi intensément que j'aimerais, tant au Conseil municipal qu'à l'Assemblée fédérale. Donc j'ai décidé formellement, et je l'ai annoncé à la ville de Porrentruy, de renoncer à occuper le siège de conseillère municipale.
Mathilde Crevoisier-Crelier, interrogée par Raphaël Chalvera, et ce siège a déjà trouvé preneur. Gilles Coulry a accepté de rejoindre l'exécutif Bruntrutin. Il était le premier des Viennes ensuite, lors des élections du mois d'octobre. Gilles Coulry a été conseiller de ville de nombreuses années à Porrentruy et siège au comité directeur du Parti socialiste jurassien. Tout ceci sont donc des effets dominos directs de l'élection d'Elisabeth Baumschneider au Conseil fédéral, mais pas les seuls. Revenons à Berne, avec l'avènement ce jour de Mathilde Crevoisier-Crelier sous la coupole fédérale, eh bien les 4 élus du canton sont désormais à Joulot. La sénatrice rejoint Charles Juillard aux États, puis Pierre-Alain Fridé et Jean-Paul Kschwind au National. Autre changement inévitable pour ses proches. Des émotions, beaucoup, de l'appréhension, un peu. La famille d'Elisabeth Baumschneider a vécu un moment intense mercredi à Berne avec l'élection de la sénatrice jurassienne au Conseil fédéral. Elle était bien sûr aux premières loges, à la tribune du palais. Pour le cercle familial au Breuleux, la vie va forcément changer, même si l'instant est encore au bonheur. Le mari d'Elisabeth Baumschneider, Pierre-André Baume.
Incroyable, quoi. C'est un moment incroyable. On se regarde avec les 2 garçons et puis on se dit que voilà, c'est un moment incroyable, quoi. On était assez émus, je dois dire, quand même. Elisabeth était tellement enthousiaste dans cette aventure, qu'elle était tellement motivée. et qu'elle a mis tellement d'énergie, on commençait d'y croire. Elle y pensait quand même toujours, elle pensait qu'elle avait toujours une chance, quoi. Donc, on se disait que ça pouvait être possible. Puis, pour le moment où c'est sorti, voilà, je sais pas, c'est difficile à décrire, quoi. Grand, grand soulagement pour elle, c'est sûr.
Des choses, ouais. Il va s'en passer parce qu'Elisabeth Baumschneider entre dans une nouvelle dimension. Est-ce qu'au-delà de la joie, du bonheur que vous avez eu aussi en famille, il y a désormais aussi un petit peu d'appréhension, peut-être par rapport à votre qualité de vie future?
Ah ben c'est sûr, quoi. Je me suis bien rendu compte, et quand on est rentré depuis Berne mercredi soir, je me suis bien rendu compte que la vie allait changer. Hein. Dès le moment où vous avez toujours quelqu'un autour de vous, maintenant il y aura des huissiers, il y a toujours une ou deux personnes qui s'occupent de sa sécurité. Donc on s'est tout de suite rendu compte que ça allait changer, quoi. Alors maintenant, jusqu'à la fin de l'année, je crois que ça sera encore assez calme, mais après, il n'y aura plus de vie de famille. Je pense que, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça va modifier complètement cette chose-là. Je pense qu'elle va être à 150% là-dedans ou 200%. On espère avoir quelques miettes de temps en temps, quoi. Voilà. Ça sera certainement difficile au début, mais j'espère qu'après quelques mois, on arrive peut-être à trouver un bon rythme de croisière. C'est souhaitable pour elle aussi, hein, c'est sûr, quoi. Mais voilà, c'est l'inconnu. Moi, je pense que c'est quand même l'inconnu.
Elle sera encore de temps en temps au Breleu?
Il semble que le week-end, de temps en temps, il y aura quelques possibilités de revenir, soit le samedi, soit le dimanche. On pense, mais on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Puis elle ne sait pas non plus, vraiment. On prendra ce qui reste.
Juste un petit clin d'œil. Vous êtes professeur d'auto-école. Vous parlez d'instants précieux. Lorsque vous aurez des moments en famille, vous ne pourriez pas vous reconvertir en chauffeur personnel de Madame la conseillère fédérale?
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, mais quand elle aura des congés, donc je vais un petit peu professionnellement lever le pied, mais je vais pas m'immiscer et je vais pas la suivre. Être son chauffeur, c'est pas pour moi, ça. Non.
Pierre-André Baume, époux d'Elisabeth Baumschneider, répondait à Raphaël Chalvera. Un budget 2023 dans les chiffres noirs à Seignes-l'Égier. Le conseil communal l'a présenté aux médias ce matin. Il prévoit un bénéfice de 58 000 francs. En comparaison, celui de cette année affichait un déficit d'environ 188 000 francs. Responsable du dicastère des finances du chef-lieu franc-montagnard, Diego Moni-Bidin explique cette évolution qui amène à une projection bénéficiaire.
C'est principalement dû aux rentrées fiscales, qui sont quand même quelques 200 000 francs de plus élevés que les autres années. Et puis évidemment, on est toujours très attentif aux charges et on veille de ne pas dépenser trop, mais de quand même faire les entretiens nécessaires.
Donc le résultat du compte de fonctionnement communal s'explique en grande partie par la différence des rentrées fiscales. Et au niveau des résultats des services communaux, comment est-ce que vous expliquez cela?
Par rapport aux autres années, le résultat du compte de fonctionnement communal, il est toujours un peu négatif. Et les rentrées par rapport aux services communaux sont un peu plus basses, et c'est notamment dû au fait qu'au niveau de l'épuration des eaux, la consommation en électricité de la STEP nous a coûté quand même quelques 100 000 francs de plus qu'en 2022.
Mais à ce niveau-là, il y a quand même des bénéfices.
Alors oui, les services communaux restent bénéficiaires.
Diego Moni-Bidin, responsable des finances de Seignes-l'Égier, répondait à Émilie Charmillot. Deux communes tiennent leurs assemblées ce vendredi soir. Budget et autres taxes sont au menu, tant à Soubé qu'à Métambert. Les citoyens de Soubé devront aussi se prononcer sur un crédit de 80 000 francs pour la révision du plan d'aménagement local et sur les autorisations pour permettre le développement d'une zone d'activité d'intérêt cantonal dans les Franches-Montagnes. À Métambert, les statuts du nouveau cercle scolaire primaire du Haut-Plateau seront soumis à l'Assemblée. Vous ne pouvez pas le rater si vous passez dans la Grand Rue à Porrentruy. L'atelier boutique Créatitude a été officiellement inauguré ce vendredi après-midi. C'est le petit dernier de l'unité d'accueil psycho-éducative, UAP, qui accompagne les personnes présentant des troubles psychiques. Il est possible d'y acheter les créations des patients ou clients de l'UAP. Une manière aussi de faire prendre conscience à la population que ces personnes sont dotées de talents parfois exceptionnels, comme l'explique le directeur de l'UAP, Bruno Janin.
L'idée, c'est de faire valoir qu'il y a de moins en moins de fossés, de distances ou de frontières entre une personne qui est saine et une personne qui viendrait à être fragilisée par la maladie psychique. Le Kidam, il peut se trouver aussi de l'autre côté. L'autre chose, c'est qu'on ne fait pas forcément de charité. On est là pour rendre visibles les compétences de ces gens, qui sont certes malades, mais qui ne sont pas abîmés partout. Il y a deux photographes quasi niveau professionnel dans l'Assemblée. On a un dessinateur aussi qui produit des cartes à l'échelle suisse, puisqu'il vend sur Fribourg et autres. Donc nous, on ne sert pas grand-chose, en fait. On est là pour leur donner la petite impulsion qui leur manquait à faire partager leurs belles compétences avec le public.
Et si l'atelier boutique Créatitude se trouve en plein centre-ville, ce n'est pas anodin. La médecin-chef Danielle Charmillot explique que le contact social avec la population est primordial dans le cadre de la réhabilitation psychosociale des patients.
Puis il y a un but de connaissance, il y a un but d'échange, il y a un but de déstigmatisation, de rencontre. C'est clair que pour intégrer les gens dans la communauté, il faut des échanges. Il faut que chacun fasse un effort pour comprendre l'autre.
Et en tant que médecin, vous pouvez le dire, ça fonctionne? On a effectivement des exemples qui montrent qu'on arrive à des progrès, des résultats?
Oui, il y a des endroits où ça fonctionne. Il y a un atelier à Saint-Imier qui fonctionne sur ce principe-là aussi. Après, il faut que la mayonnaise prenne, donc ça va prendre un certain temps. Mais oui, on compte aussi sur la population pour qu'ils s'arrêtent sans parti pris, sans idée préconçue sur ce qui se passe là.
Ce nouvel atelier boutique de l'UAP est à découvrir à la Grand Rue 26 à Port-en-Truy. Les centres culturels et salles de spectacle peinent toujours à se remplir depuis la fin de la crise sanitaire. À l'heure de présenter son programme pour le premier semestre 2023, le centre culturel du district Port-en-Truy affiche toujours une baisse d'environ un tiers de son public. Pour le reconquérir, le CCDP a misé sur une programmation aux accents populaires, mais s'efforce aussi de travailler sur ses tarifs, dans une volonté de rendre la culture plus accessible, selon Audrey Jubin, collaboratrice au CCDP.
On propose davantage de tarifs pour les moins de 26 ans, aussi pour les enfants, et puis des cumuls de tarifs différents. Donc voilà, l'idée, c'est que vraiment le théâtre devienne accessible aussi financièrement, que tout le monde puisse y trouver son compte et venir, que ce soit pour le plaisir et financièrement.
Vous avez constaté que le prix était un blocage, peut-être parfois ?
C'est difficile à dire. Je pense que pour une certaine tranche de la population, c'est pas un blocage. Les gens qui sont fidèles et qui ont l'habitude, ils n'ont pas de problème de mettre le prix. Peut-être pour des gens qui sont plus jeunes, ça peut être un blocage, effectivement. Aussi peut-être des grandes familles. Le théâtre, ça reste considéré dans la population comme quelque chose d'élitiste. Du coup, on considère un peu par principe que c'est cher. Après, il faut qu'il y ait des prix. C'est normal que les artistes soient payés. Leur valorisation, elle passe aussi par le fait de payer son billet pour venir les voir. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la danse ou les musées ou n'importe.
Audrey Jubin au micro de Jérémy Pignard. Dossier et programmation à retrouver sur rfj.ch.
RFJ, il est 18h12.
Sport.
Il faut encore attendre un peu pour connaître le premier demi-finaliste de la Coupe du Monde de football. La Croatie et le Brésil n'ont pas pu se départager dans le temps réglementaire, 0-0. Les deux équipes jouent en ce moment les prolongations dans le premier quart de finale du Mondial au Qatar. On est à deux doigts de la fin de la première prolongation. Et si je vois bien, à l'instant, le Brésil ouvre la marque grâce à Neymar. On va encore attendre parce qu'on est vraiment en direct en train de vous dire ça. Le but est-il validé par la VAR, probablement d'après les images télévisuelles qui sont sous nos yeux. La samba brésilienne est en train d'arriver. A priori, le Brésil mène donc 1-0 à la 106e minute de jeu. But de Neymar. On vous confirmera tout ça d'ici peut-être quelques minutes pour être certain qu'il n'y aura pas de VAR ou d'annulation. Mais a priori, 1-0 pour le Brésil. Le deuxième quart du jour entre les Pays-Bas et l'Argentine se dispute à 20h. Vous retrouvez toute l'actualité évidemment du Mondial à 18h30 dans le journal La Coupe du Monde présenté aujourd'hui par Olivier Zanon. A priori, le but du Brésil est validé, 1-0 pour l'équipe sud-américaine. 11 matchs et une victoire fin octobre à Ambry qui l'attend de lever les bras au ciel. Le HC Ajoie va tenter de stopper sa série négative ce soir face à l'autre équipe tessinoise du championnat. Il reçoit Lugano à 19h45 à Port-en-Truy. Une rencontre à vivre en direct sur RFJ dès 19h30 en compagnie de Michel Léoni et notre consultant Yann Voya. Les slalomeurs trépignent d'impatience, eux qui n'ont pas encore eu la moindre course cet hiver en Coupe du Monde masculine de ski alpin. Ils devraient pouvoir effectuer leur début ce week-end à Val d'Isère. Faut-il encore que la neige tombée en abondance ces dernières heures le permette? Deux épreuves sont prévues dans la station française, un géant demain dès 9h30 et un slalom dimanche. Les candidats suisses au podium sont nombreux, on pense évidemment à Marco Odermatt, Gino Caviezel ou encore Loïc Meillard. Devant cette densité, la responsable des courses et ancienne skieuse française Ingrid Jacquemot ne cache pas son admiration.
Déjà, vous avez des têtes d'affiche, des prodiges forcément comme Marco Odermatt. Et on sait qu'à la base de tout ça, il y a une très bonne école de formation avec une structuration qui est bien différente à celle de la France pour plein de raisons. Donc, on ne pourrait pas forcément faire des copier-coller. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une grosse richesse au niveau de cette base de pyramide chez les jeunes. Nous, on en parle souvent quand on est avec nos équipes d'entraîneurs de ce modèle-là. Je pense que vous avez un peu tout, en fait, à tous les niveaux, et c'est très inspirant.
Des propos recueillis par notre confrère de Rhône FM, Hugo da Custodia. Fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Belle soirée et bon week-end.